Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Préoccupation concernant un chaînon manquant dans les cas de Covid, dans un cas de Covid après qu'une infection donc à Brisbane était liée à un cluster précédent. C'est aujourd'hui l'heure de la Terre. À 20h30 ce soir, l'Australie marquera donc cette heure internationale des Earth Hour. Et en sport, en rugby, défaite du 15 de France sur le fil contre l'Écosse, 27-23 dans le dernier match des 6 nations. On verra ça tout à l'heure dans le journal des sports. Et on débute donc ce journal avec le Queensland et les recherches qui sont en cours pour trouver un lien manquant sur la contamination par le coronavirus d'un médecin à Brisbane. Les tests génomiques ont confirmé que l'infection de l'homme de 26 ans était liée à un médecin de l'hôpital Princess Alexandra qui avait été diagnostiqué le 12 mars dernier. Les autorités sanitaires ont également confirmé que l'homme avait le variant anglais. 11 sites d'exposition ont été visités par le jeune homme, qui ont été répertoriés dans un centre commercial à Carindale, un Bunnings ou un Aldi à Stalford. Les États et les territoires australiens ont agi rapidement pour imposer des restrictions de voyage vers le Queensland. L'Australie occidentale, l'Australie méridionale, les territoires du Nord, la Nouvelle-Galles du Sud, la Tasmanie et l'ACT affirment que les voyageurs des sites d'exposition de Brisbane doivent se faire tester et se mettre en quarantaine immédiatement. Le Victoria a désigné Brisbane et Moreton Bay comme zone orange dans le cadre de systèmes de permis de circulation certains États. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, demande aux pays les plus riches de donner immédiatement au moins 10 millions de vaccins afin de pouvoir atteindre son objectif de vaccination dans tous les pays et ce, dans les premiers 100 jours de l'année 2021. On écoute Tedros Ghebreyesus, le secrétaire général de l'OMS. Il condamne les accords privés que les pays ont pu conclure avec des entreprises pharmaceutiques. On l'écoute.
We can't deliver vaccines we don't have. As you know, bilateral deals, export bans, vaccine nationalism and vaccine diplomacy have caused distortions in the market, with gross inequities in supply and demand. Increased demand for vaccines has led to delays in securing tens of millions of doses that COVAX was counting on.
Alors voilà donc Tedros Ghebreyesus de l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, on reste avec eux, avec l'OMS, et sur une enquête sur les origines du Covid-19 qui est en cours de finalisation. Les responsables chinois ont informé les diplomates des recherches en cours avant la publication attendue donc du rapport de l'OMS qui devrait arriver ces jours suivants. Le rapport était retardé et basé sur une visite qui était faite plus tôt dans l'année d'une équipe d'experts internationaux à Wuhan, la ville au centre de l'infection chinoise. Feng Jingjian, membre de l'équipe chinoise et directeur adjoint du centre donc chinois de contrôle et des préventions des maladies, a déclaré que les experts avaient examiné 4 façons possibles de propagation, notamment à savoir si une chauve-souris porteuse du virus avait infecté un humain. On l'écoute.
After in-depth discussions among the team, experts formed their opinions through votes. They believe that it was likely that the virus was transmitted directly from a host animal to human or introduced to Wuhan via cold chain foods. Experts believed it was extremely unlikely that the virus was leaked from a lab and transmitted to human.
Voilà donc pour le Covid pour le moment. 13h04, la France a failli au Rwanda entre 1990 et 1994. C'est la conclusion d'une commission d'historiens mise en place par Emmanuel Macron il y a 2 ans. L'enquête, dont les résultats viennent tout juste d'être remis à l'Élysée, décrit la genèse d'un drame annoncé. Léonard Vincent pour RFI.
Un élément surplombe la relation franco-rwandaise d'avant le génocide de 1994, dit le rapport du Clerc. La relation forte, personnelle et directe du président français François Mitterrand et du président rwandais Juvenal Habyarimana. C'est l'un des facteurs expliquant l'obstination de Paris en dépit des mises en garde dans sa lecture ethniciste erronée de la situation au pays des Mille Collines, dit encore le rapport. Le FPR est perçu par l'armée et l'Élysée comme un agresseur extérieur, un parti de l'étranger anglophone. quand le gouvernement de Kigali, lui, est perçu comme le parti de la majorité hutu francophone, garante de la légitimité démocratique. Tel est cet aveuglement continu que dénonce le rapport Duclair face à un régime raciste, corrompu et violent qui mène à la catastrophe. C'est ainsi que le rapport conclut à une faillite de l'appareil d'État français, produisant un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes. Pour autant, ce n'est pas une complicité, comme certains le disent. Si l'on entend par complicité une volonté de s'associer à l'entreprise génocidaire, dit le rapport, rien dans les archives consultées ne vient le démontrer.
Et c'était Léonard Vincent pour RFI. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les marchés pétroliers subissent des perturbations causées par le blocage du cargo Ever Given dans le canal de Suez. Plus de 200 navires se trouveraient dans un embouteillage maritime à l'extérieur du canal après que le porte-conteneur soit resté bloqué en travers du passage. On écoute le chef de la division des marchés pétroliers à l'Agence internationale donc de l'énergie, à l'AEI. Il s'appelle Toril Bossoni.
I think that you can see maybe the impact on the tanker market will be more severe than for the oil markets per se. As I said, we're not losing any oil supply, but we will tie up tankers for longer if they have to go around. It takes an additional roughly 2 weeks to go around to Cape Horn, so that will tie up the tankers for longer to getting the oil from A to B, which push up the freight rates, freight rates and so forth.
13h07. Ce soir, on s'attend à ce qu'un Australien sur trois participe à Earth Hour en éteignant simplement les lumières pendant une heure. L'Opéra de Sydney, le Harbour Bridge et de nombreux autres sites à travers l'Australie seront des points de repère à travers le pays. Ils éteindront leur courant, l'électricité, pour soutenir donc cette Earth Hour. Ce sera à partir de 20h30. Earth Hour, c'est le plus grand mouvement populaire au monde pour l'environnement. Le directeur général du World Wildlife Fund Australia, Dermot O'Gorman, a déclaré que si chaque ménage australien faisait le changement, cela compenserait les émissions de l'ensemble du secteur des transports du pays. On l'écoute.
We're inviting all Australians to sign up and to make the switch for nature for what perhaps is the most important Earth Hour ever. In taking part in Earth Hour this year, you can join millions of people in switching off at 8:30 local time for 60 minutes to show you care about our planet's future.
Voilà, donc si vous voulez participer, c'est à 20h30, il vous suffira simplement d'éteindre toutes vos lumières chez vous pendant 60 minutes, pendant une heure. Et d'ailleurs, ça a le soutien, cet événement a le soutien d'un ancien footballeur, un ancien représentant de l'Australie. Il a également joué pour le club de Liverpool, c'est Harry Kewell. On l'écoute.
My Earth Hour switch for nature is never leaving the house without my reusable coffee cup, keep cup. Because plastic is not only clogging up our waterways and landfills, plastic demands 8% of the world's annual petroleum production. And in Australia, 95% ends up in landfills after only a single use.
Voilà, donc Harry Kewell sur les tasses plastiques, donc Earth Hour ce soir à 20h30. Le gouvernement britannique a réitéré son soutien aux individus qui ont été sanctionnés par la Chine pour avoir dénoncé ce qu'ils appellent des violations flagrantes des droits humains contre les populations musulmanes des Ouïghours. Pékin a sanctionné 9 individus et entités britanniques à la suite de la décision du Royaume-Uni de rejoindre l'Union européenne. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants avec Europa Voice, l'Union européenne qui sanctionnait des responsables chinois il y a quelques jours. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinois, Hua Qingjun, a déclaré que la Chine était obligée de réagir. On l'écoute.
China is firmly determined to safeguard its national sovereignty, security and development interests and warns the UK side not to go further down the wrong path. Otherwise, China will resolutely make further reactions.
Voilà donc les propos traduits du ministre des Affaires étrangères chinois. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominic Raab, a déclaré quant à lui qu'il était solidaire des individus et des institutions, dont le député Ian Duncan Smith et la commission des droits de l'homme du Parti conservateur. On l'écoute.
It's not going to stop them, or it's not going to stop the British government speaking up about the industrial scale human rights abuses taking place in Xinjiang. If the Chinese government want to continue with these blanket denials that anything wrong is taking place in Xinjiang, the obvious thing for them to do would be to allow access to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. As long as they continue to resist and refuse to do so, the international pressure will only continue to grow.
Ouais, donc d'ailleurs les relations entre la Chine et l'Europe, on y revient, je vous le disais en titre dans un peu plus tard dans l'émission au sein de notre segment de l'Europa Voice. La Chine toujours qui a annoncé l'imposition de taxes prohibitives sur l'importation de vins australiens en bouteille dans son pays, alors que les tensions entre Pékin et Canberra se sont exacerbées depuis le début de la pandémie du coronavirus. Un coup très dur pour les viticulteurs australiens puisque la Chine est le premier client à l'international. Depuis les explications avec Grégory.
Des surtaxes allant de 110 à 220%, c'est ce que les autorités chinoises vont imposer à partir de dimanche aux vins australiens en bouteille, et ce pour les 5 prochaines années. C'est là le résultat d'une enquête lancée en août dernier par le ministère chinois du commerce qui accuse les viticulteurs australiens de dumping. Cette nouvelle sanction commerciale contre l'Australie s'ajoute à d'autres mises en place ces derniers mois, visant notamment l'orge, le bœuf ou encore le charbon, dans un contexte de tensions grandissantes entre Pékin et Canberra. Les ventes de vins australiens, déjà soumises depuis août à une taxe préventive de 200%, se sont écroulées ces derniers mois, chutant à 1 million de dollars en janvier contre 164 millions en octobre dernier. Au-delà du vin, c'est tout le commerce entre l'Australie et la Chine, son premier partenaire commercial, qui est impacté. D'après un rapport du ministère australien des Affaires étrangères paru cette semaine, les exportations vers la Chine, hors minerai de fer, ont chuté de 40% depuis la fin 2019. Canberra, pour sa part, n'a pas dit son dernier mot et compte faire appel à l'Organisation mondiale du commerce.
Voilà donc pour le vin et les relations avec la Chine. De très grandes manifestations ont eu lieu au Bangladesh contre la visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Dhaka, la capitale du Bangladesh, des rassemblements qui ont fait 4 morts et des heurts avec les forces de l'ordre. Et la visite intervient dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'indépendance du pays par rapport au Pakistan. Christophe Paget.
Les heurts ont éclaté dans une petite ville rurale du sud du Bangladesh, à Tazari, où sont basés les principaux chefs du groupe islamiste radical Hefazat-e-Islam, auquel appartenaient les personnes tuées. Selon le gouvernement local, les manifestants attaquaient un commissariat en chantant des slogans anti-Modi. Hefazat-e-Islam affirme de son côté que la police a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques. Plus tôt dans la journée, il y avait déjà eu des heurts dans la capitale Dhaka, lors d'une manifestation anti-Modi près de la principale mosquée du pays. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessés selon la presse locale. De fait, cela fait plusieurs jours que des manifestants accusent Narendra Modi d'attiser les tensions religieuses en Inde et d'avoir incité à des violences contre la minorité musulmane qui ont fait 1 millier de morts en 2002 dans l'état indien du Gujarat qu'il dirigeait à l'époque. Ce vendredi à Dhaka, lors de la clôture du festival organisé pour l'anniversaire de l'indépendance du Bangladesh, une cérémonie à laquelle assistait Narendra Modi, la première ministre Sheikh Hasina a elle apprécié l'envoi gratuit par son homologue indien de vaccins contre le coronavirus à ses voisins, parmi lesquels le Bangladesh, et elle a salué l'Inde comme un partenaire de développement.
Et c'était donc Christophe Paget pour RFI. Allez, coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 28 degrés. Adélaïde, 22. Melbourne, 20. Hobart, 21. Canberra, 21. Sydney, 27. Brisbane, 30. Cairns, 31 degrés. Et Darwin, 33 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Préoccupation concernant un chaînon manquant dans les cas de Covid après qu'une infection ait été détectée à Brisbane et cette infection est liée à un cluster précédent. Earth Hours sera marqué ce soir à 20h30 en Australie et partout dans le monde. Voilà, c'est tout pour le journal pour aujourd'hui.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.